Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter et merci de nous être fidèles tous les samedis. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat de la semaine. Comment faire face au racisme? Avec quelles idées, quels arguments mener le combat? Évoquer la race en France, c'est s'aventurer sur un champ de mine. Chez nous, il n'y a pas de race. Parler de race, c'est raciste ou bon pour les Américains, ce qui semble revenir au même. Fermez les guillemets, c'est ce qu'on peut lire dès les premières lignes d'un livre que signe la journaliste, réalisatrice et militante Rokhaya Diallo, la fondatrice de l'association Les Indivisibles. Le titre, La France, tu l'aimes ou tu la fermes? Point d'interrogation, vient de paraître chez Textuel, une série de textes d'intervention sur des questions qui divisent, mettent le feu dès qu'elles sont évoquées dans l'espace public et questions qu'elle affronte bille en tête, racisme d'État, islamophobie, laïcité à la française. Dans d'autres textes, elle s'attaque à ce qu'elle désigne comme un communautarisme blanc ou encore à des œuvres de la pop culture, séries télé ou super-héros. Vous comprendrez pourquoi. Elle, en tout cas, n'hésite pas à s'engager dans la controverse. Elle s'assume féministe et intersectionnelle. Travail de définition à venir de ce mot qui s'impose peu à peu dans le débat public. Rokhaya Diallo est l'invitée du grand face-à-face aujourd'hui. Rendez-vous avec elle d'ici une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer notre retour sur l'actualité avec un droit de suite.
Là je comprends pas. Donc moi je suis très détendu, ce qui m'importe c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Voilà. Moi, je me suis battu pour un portefeuille. J'ai soumis trois noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend. Et puis, à la fin, on me dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Il faut qu'on m'explique.
Le président de la République, jeudi, lors d'une conférence de presse à Lyon, il apparaissait particulièrement mécontent en découvrant la suite et la fin du feuilleton et peut-être du calvaire de Sylvie Goulard devant le Parlement européen. Les eurodéputés, vous le savez, ont donc rejeté sa candidature à la Commission. Et le président de la République qui dit qu'il ne comprenait pas. Est-ce que vous, vous comprenez, Gilles, ce qu'il s'est passé, puisque vous nous disiez la semaine dernière qu'il n'était pas impossible qu'in fine, les eurodéputés investissent Sylvie Goulard?
Je comprends assez bien, parce que depuis le début, c'est un des rares points sur lesquels, sur les questions européennes, Natacha Polony et moi étions d'accord, oui, que le choix de Sylvie Goulard était un choix risqué qui marquait une forme de, soit de désinvolture vis-à-vis du Parlement européen, soit de méconnaissance de la procédure des auditions et de la réalité de ces auditions. C'est un camouflet inédit pour la France. C'est la première fois qu'un commissaire est récusé par le Parlement européen et c'est un camouflet personnel pour le président de la République. Donc là,
c'est ce que vous en retenez. Vous ne retenez pas une victoire de la démocratie européenne et de ce processus d'audition, de vetting, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, des candidats à la Commission.
Ça l'est aussi. C'était une candidature, on l'a dit plusieurs fois, qui était une candidature fragile et dont les auditions ont renforcé la fragilité. Et donc, peut-être qu'Emmanuel Macron avait discuté avec Ursula von der Leyen avant, mais les auditions elles-mêmes se sont mal passées. Elles se sont mal passées sur le conflit d'intérêts avec le think tank américain, dont plus les auditions passaient, moins on comprenait la réalité de ce que Sylvie Goulard avait fait pour ce think tank. Ça s'est mal passé sur l'affaire des emplois fictifs, avec notamment...
Présumé du MoDem.
Oui, avec notamment le refus de Sylvie Goulard de dire qu'elle démissionnerait si elle était mise en examen. Et ça s'est même mal passé dans la première audition sur le fond du sujet où Sylvie Goulard a paru moins à l'aise qu'on aurait pu le penser. Donc tout ça était en fait assez, non pas prévisible, mais c'était une voie possible et c'est un camouflet.
Natacha.
En effet, Gilles le disait, nous sommes d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire que les faits qui sont reprochés à Sylvie Goulard sont tout de même assez nombreux et assez importants. C'est-à-dire qu'elle elle n'a pas, pendant les auditions, expliqué réellement quel était son lien avec le cabinet Berggruen. Notre journaliste de Marianne, Étienne Girard, avait sorti cette information selon laquelle son assistante parlementaire au Parlement européen avait participé à ses travaux pour ce think tank. Donc c'est une accumulation de faits dont on se disait qu'il ne pouvait pas passer devant un Parlement qui, en effet, a le bon goût d'être extrêmement pointilleux sur ce genre de choses.
Mais vous n'applaudissez pas, Natacha?
Mais on ne peut pas se réjouir de voir la France mise en difficulté. Or là, c'est bien ça la conséquence. Ce qui est frappant, le premier point, c'est tout de même que les Français ont tendance à pêcher en Europe par arrogance. On a vu ce que ça donnait avec Nathalie Loiseau, on voit ce que ça donne avec Sylvie Goulard. Des gens qui, en France, se prévalent de leur grande ouverture aux instances de l'Union européenne, de leur amour de l'Union européenne, et qui, en fait, une fois qu'ils y sont, ont tendance à mépriser un peu les procédures, dans la mesure où Sylvie Goulard, là, a cru qu'il suffisait d'expliquer qu'elle parlait en quatre langues pour que ça passe. Or, on voyait bien qu'elle n'a pas pris en compte les eurodéputés qui l'interrogeaient. Elle leur a répondu de façon extrêmement désinvolte. Ce qui est profondément dommage là-dedans, c'est qu'en effet, il y a dans les nominations, dans les jeux de nomination à la Commission européenne, un enjeu de pouvoir important dont le but, après, est de pouvoir, petit à petit, pour les différents pays, orienter l'Union européenne dans un sens qui soit positif pour tout le monde. Or là, nous arrivons dans ce jeu totalement affaibli.
Gilles ?
Oui, c'était une candidature fragile, on l'a dit depuis le début. Après, qu'il y ait des jeux politiques, comme Emmanuel Macron le dénonce, évidemment.
Et comme il l'avouait très tranquillement, qu'il en avait parlé avec la future présidente de la Commission, qu'il avait eu l'assentiment
Très tranquillement,
des groupes,
non. Son ton n'est pas du tout tranquille.
C'est vrai, mais que les présidents des groupes, des partis, le PPE, le PSE, les socialistes et Renew étaient d'accord pour soutenir cette candidature. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discipline de groupe ou ça veut dire France est tombée dans un traquenard ?
Non, ça veut dire que les auditions sont de vraies auditions et ça veut dire qu'il y a un ressentiment notamment du Parti Populaire Européen et notamment, et ce n'est pas rien, de la CDU allemande. C'est le parti d'Angela Merkel qui a été le fer de lance de ce qui s'est passé là, notamment parce que depuis le début, Emmanuel Macron s'est opposé à ce qui était une sorte de procédure un peu plus parlementaire dans la désignation du candidat à la présidence de la commission et qui a écarté celui que les démocrates chrétiens allemands et le Parti populaire européen avaient choisi. C'est un peu la réponse du berger à la bergère, mais quand quelqu'un veut vous battre, le mieux est d'éviter de lui donner des verges.
Alors un autre dicton, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas perdu une bataille mais qu'il n'a pas perdu la guerre, puisque de toute façon il y aura une candidature française, et il y aura un commissaire ou une commissaire européenne
nationalité
française.
C'est la règle. Donc, évidemment qu'il y aura un ou une commissaire. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous abordons cette séquence avec l'idée que la France s'est décrédibilisée. Or, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que l'Allemagne est dans une position complexe du fait de ses résultats économiques, du fait de la fin du règne d'Angela Merkel. Les Britanniques vont nous quitter. L'Italie est fragilisée. Donc la France avait quelque chose à jouer justement pour qu'Emmanuel Macron puisse réformer l'Union européenne dans le sens qu'il a toujours défendu et qui, pour le coup, n'est pas idiot. Donc on ne pouvait que souhaiter qu'il réussisse. Et il arrive à se tirer une balle dans le pied. C'est un paradoxe incroyable.
Natacha Polony qui salue Emmanuel Macron et sa politique européenne.
Je salue Emmanuel Macron quand il va dans un sens qui me semble bon.
Encore un mot, Gilles, sur le sujet.
Oui, juste une phrase. Il y aura un commissaire européen. Ce sont les institutions. Donc ça, il n'y a pas de débat. La question est de savoir quelle sera l'étendue de son portefeuille. Un des risques avec Sylvie Goulard était que le portefeuille large qu'elle devait avoir puisse être découpé. L'enjeu pour la France maintenant est de garder ce portefeuille dans sa totalité.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents. Il faut les réprimer très très rapidement parce que c'est une dégradation de l'image de l'écologie, de l'image de l'environnement et ça risque de disqualifier toutes les actions pro-environnementales qui risquent d'être associées à ce type d'agression et de violence.
Tout ce qui est action pacifique permettant de montrer, de dire et d'obliger les responsables politiques à agir, tout ça évidemment que je soutiens parce qu'on ne s'en sortira pas autrement.
Ségolène Royal, c'était lundi matin sur France Inter, puis Anne Hidalgo qui s'exprimait mercredi depuis Copenhague sur la question XR, comprenez Extinction Rébellion. Vous savez que c'est le nom de ce mouvement écologiste dont les militants mènent des actions dans de nombreuses villes à travers le monde, à Londres, à Sydney ou à Paris cette semaine, en investissant la place du Châtelet après le centre commercial de la place d'Italie. Esprit festif, des forums où l'on débat et au cœur de la mobilisation, l'urgence climatique. climatique, la critique de l'inaction des gouvernements et l'opposition à un système économique jugé dévastateur pour la planète et surtout l'appel à la désobéissance civile. Le thème, la pratique, revient dans le débat. Natacha, qu'en pensez-vous ? Désobéir, la désobéissance civile au nom du climat.
Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, sur les deux extraits que vous avez passés, je pense que nous avons deux exemples de démagogie absolument formidables. D'un côté, Ségolène Royal qui parle de mouvements agressifs et violents, alors que justement Extinction Rébellion se veut non violent, fait très attention à ne surtout pas donner l'impression d'être opposé à l'ordre, à la police. On voit des militants d'Extinction Rébellion effacer méticuleusement tous les tags anti-policiers qui pourraient apparaître. Donc, elle n'y connaît rien, mais elle a senti qu'il y avait de la part d'une part de la population un agacement face à ces mouvements et elle essaye de surfer dessus. Et en face, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui joue la carte de la grande défendresse de la, du climat et qui laisse installer une ZAD au cœur de Paris. Oui, c'est-à-dire qu'on est, on en est là, ce qui est très drôle d'ailleurs. Mais c'est totalement effarant de la part d'un maire. Donc je pense que là, il y a deux postures. Derrière, il y a la question de savoir quel est le type d'action. Et moi, je m'interroge sur la spécificité française qui fait que nous avons beaucoup moins de militants dans les manifs anti-gouvernement pour l'urgence climatique. Nous en avons beaucoup moins que dans les autres pays. Et il faudrait peut-être se demander pourquoi. Et il me semble qu'il y a peut-être une habitude des mouvements revendicatifs français à immédiatement transformer quelque chose qui pourrait être collectif et vaste en une fraction un peu gauchiste, pour le dire gentiment. Et là, je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec ce mouvement qui me semble agréger des choses qui n'ont rien à voir entre elles et perdre un peu de vue ce côté pourtant extrêmement ouvert et qui devrait parler à tout le monde parce que c'est une lutte nécessaire aujourd'hui.
Gilles Finkelstein, mouvement sympathique, XR ?
Méfiance pour moi.
Ah oui ?
Oui, non seulement méfiance mais même extrême méfiance.
Pourquoi ?
Évidemment qu'on critique l'insuffisante action des gouvernements, qu'on plaide pour un changement de nos modèles de consommation, que les jeunes se mobilisent. C'est très bien. Et ça fait même des semaines et des semaines ici même qu'on le dit. Mais extrême méfiance, d'abord sur le mot extinction, qui est à la fois peu étayé scientifiquement et surtout qui peut légitimer absolument n'importe quoi dès lors que...
Il évoque la sixième extinction, l'extinction massive des espèces sur la planète.
Oui, mais dès lors qu'on est sur l'extinction, non seulement pour la désobéissance civile, mais derrière la dictature, le survivalisme, tout peut être légitimé au nom de l'extinction. Méfiance par rapport aux objectifs. Je ne sais pas si vous avez lu la plateforme de XR en France, et je pense que ça doit être la même chose puisque c'est un mouvement international, mais quand dans les objectifs on fixe la neutralité carbone en 2025, c'est d'une démagogie sans nom parce que tout le monde sait que ce n'est pas possible.
C'est une manière de désigner l'urgence dans l'esprit de ceux qui la revendiquent.
Mais très bien, disons urgence, mais déjà faisons la neutralité carbone en 2050, faisons ça déjà. Et enfin, méfiance vis-à-vis du mouvement... En tout cas, dans sa broche anglaise, puisque chacun s'organise de manière un peu différente, mais c'est un mouvement qui est d'abord né en Angleterre.
L'année dernière, mais qui n'a pas de porte-parole, pas de leader.
Non, mais il y a une petite dimension un peu ésotérique, je ne dis pas secte ésotérique, mais je regardais encore une fois, même le programme en France, les cérémonies de gratitude, les bulles de régénération, tout ça est quand même un peu bizarre.
Vous avez failli prononcer le mot de sectaire.
Les formes d'action sont ambiguës. Parce
oui,
que,
Natacha ?
Oui, on dit non-violence. Mais il y avait quand même, notamment Italie 2, des graffitis dans lesquels on voyait couteau en céramique deux jours après l'attentat de la préfecture de police. Et puis il y a une forme de fascination pour le sacrifice de soi et pour la prison. Et donc tout ça, méfiance.
Disons que la prison, ça fait partie des tactiques de Extinction Rébellion. Oui. Il s'agit de rechercher l'arrestation pour avoir des images symboliques et pour se faire passer pour des martyrs. Mais c'est une stratégie politique. Il se trouve que justement avec un maire comme Anne Hidalgo, c'est vrai que ça ne marche pas puisque de toute façon on les laisse et on ne les met pas en prison. C'est ça qui est assez surprenant. C'est très drôle. Oui, mais je veux dire, elle ne demande absolument pas la La mise en a, il y a une, visiblement une confrontation entre la préfecture de police et la maire de Paris sur ce sujet-là qui est assez intéressante. Mais c'est surtout que je suis d'accord avec Gilles sur un point. Parmi les méthodes, je ne suis pas sûre que les expériences de yoga et en effet les bulles de régénération, etc., permettent de lutter réellement contre...
Vous devriez essayer, contre le... qui sait.
Non, le réchauffement climatique, c'est un sujet essentiel qui mérite d'être pensé politiquement.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Un mot de politique, justement, avant d'accueillir notre invité Rokhaya Diallo, et un coup d'œil vers la droite française, les Républicains, alors qu'ils vont, les Républicains, choisir le futur président de leur parti. On a vu Jean-François Copé sortir de son silence, François Fillon aussi, à la fin de cette semaine, dans une interview à la télévision suisse, où il déclarait, l'ancien Premier ministre, que la droite française s'est suicidée avec ses divisions. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il s'est passé? Et comment regardez-vous, Gilles, ce qui se joue aujourd'hui chez les Républicains?
La crise de la droite française n'est pas seulement une crise française, c'est une crise européenne, mais elle est particulièrement profonde dans la mesure où on ne sait plus quels sont les électeurs que les Républicains cherchent à conquérir ou à reconquérir. On ne sait plus quel est leur positionnement. On voit sur tous les grands débats de ces derniers temps sur l'Europe, sur la PMA, sur l'immigration, ils ont adopté des positions qui étaient différentes et moins encore on voit émerger un leader. Les principaux leaders sont à l'extérieur du parti et ceux qui sont en lice aujourd'hui n'incarnent pas grand-chose, si ce n'est pour certains une droitisation. Donc pour résumer, il y a aujourd'hui une impuissance nationale des Républicains, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une puissance locale qui demeure. Puissance parce qu'ils possèdent, ils détiennent la majorité des régions, des départements et des grandes villes, et qu'on ne peut pas exclure que cela soit encore le cas après les élections municipales. D'une certaine manière, les Républicains sont dans une situation un peu symétrique à celle du Parti Socialiste, avec un atout, c'est qu'ils sont aujourd'hui plus forts localement, mais une faiblesse, c'est que leur espace politique s'est considérablement réduit.
Natacha, un grand cadavre à la renverse, mais le cadavre bouge encore ?
Le cadavre essaye désespérément de se réveiller, ça tient un petit peu de Mary Shelley et de Frankenstein, mais on ne voit pas bien comment aujourd'hui le renouveau peut venir de l'intérieur, dans la mesure où, comme le disait Gilles, les rares qui essayent de penser un positionnement d'une droite à la française, républicaine si l'on veut, enfin tout ce qu'on veut, sont plutôt à l'extérieur de ce parti, et surtout il y a un manque terrible, non seulement d'idées, mais de visibilité de ces idées, c'est-à-dire qu'il y a des gens au sein de ce parti qui essayent de faire valoir des positionnements. Ils sont totalement inaudibles parce qu'il y a des divisions majeures, Gilles le disait, et parce qu'il y a une absence totale de légitimité de chacun. Pourquoi ? Parce que l'UMP, ça ne pouvait pas marcher. C'était une façon de rassembler des gens qui ne pensaient pas la même chose. Ça ne marchait qu'en cas de victoire. Là, on est dans la phase où, évidemment, ces gens différents s'entre-déchirent.
Histoire à suivre dans le grand face-à-face. Dans un instant, le débat avec notre invité, Rokhaya Diallo.